France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, je suis devant mon bistrot où j'attends une chanteuse française à la carrière internationale. 5 millions d'albums vendus, 2 milliards de streams vont entrer dans ce bistrot pour prendre l'apéro. Elle est rare sur cette antenne, alors j'ai très hâte de vous la faire découvrir. Je reçois Zaz. Bonjour Zaz.
Ça va ?
Ça va bien et bienvenue dans le bistrot de France Inter.
Merci beaucoup.
Ça caille.
Ah ouais, ça caille.
Oui, ça y est, on y vient.
Par contre, Zaz, cette limousine garée en double fil.
Ah merde, tu l'as vu. Merde.
Elle est venue à pied, je confirme. On va se commander un truc à boire.
Ouais.
Et puis on va s'asseoir et passer 35 minutes au chaud.
Salut.
Moi j'ai tout à découvrir de vous et je me réjouis.
Allez.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Zaz,
oui.
C'est le 6e album en 15 ans de carrière. Il s'intitule « Sain et sauf
oui. ».
Et d'après la presse, c'est votre meilleur album.
Écoute, c'est ce que tout le monde me dit.
C'est fou.
Tant mieux.
Et vous l'avez travaillé avec plein de Belges.
Ah ouais, plein de Belges plein de belles personnes.
Il doit y avoir un lien. Donc en fait, si votre meilleur album est fait par des Belges, je me dis, on va faire la meilleure interview. Si je suis belge. Zaz, vous êtes applaudi de Mexico à Osaka. Dans quel pays vous vendez le plus de disques ?
En Allemagne, en Pologne, je sais pas.
Il paraît que l'Allemagne.
Après, il y a des endroits où ils achètent, encore des albums, et il y a des endroits où ils streament plus.
Ah, par exemple, vous avez une vision,
En Amérique latine, ils streament plus.
Comme on est sur l'international et les différences entre les pays, si on doit faire une sorte de guide du routard de la vibe,
ouais.
Comment est-ce que tu sens
moi,
les choses
pas, j'aime pas les comparaisons, moi, déjà.
Mais, ouais. C'est vrai ?
Non, j'aime pas qu'on dise ça, c'est mieux que ça, ça, c'est mieux.
Ah non, c'est pas dire mieux, pas dire mieux, mais la réception est différente dans chaque
complètement.
Pays.
Bah, c'est pas la même culture musicale, déjà. Donc, tu vois, en Allemagne, par exemple, j'ai fait plein de festivals de jazz. Ils m'ont mis avec des têtes des gens que j'écoutais quand j'étais en formation. Genre, je me dis, oh, je me retrouve avec elle. Lui. Connor Ostrava en République tchèque. Je me suis retrouvée la veille avec Bobby McFerrin. Donc, j'ai pas d'idole dans ma vie. Il y a plein de gens que j'admire. Et si je devais en avoir un, ça serait Bobby McFerrin. Parce qu'il a utilisé sa voix comme un instrument. Il a travaillé toute sa vie sans fermer. Il sait faire tous les instruments avec ça. Il sait faire chanter un public qui sait pas chanter. Même des gens qui savent pas chanter, il arrive à créer une chorale avec. Et le nouveau Bobby McFerrin d'aujourd'hui, même si j'aime pas comparer, mais c'est Jacob Collier, tu vois, c'est un peu la transmission, quoi. Enfin, c'est le nouveau Bobby, quoi. Même si j'aime pas comparer. Ah, on est obligé de comparer des fois, c'est chiant.
Ouais, c'est... Donc, côté Allemagne et Europe de l'Est, il y a le côté jazzy qui vous a beaucoup demandé. Ouais. Si on
mais
va
pas, que, hein.
Pas que, j'imagine. Si on va, par exemple, en Amérique latine.
Oui.
Comment vous recevez, comment ça se passe avec le public ?
J'ai l'impression d'être leur sœur. Ils ne sont pas fans dans le truc de... Ils ne m'ont pas mis dans une case, ils ne m'ont pas mis sur un piédestal. Et c'est les valeurs que j'exprime. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le français avec mes chansons. Et vu que j'ai fait beaucoup de choses, je me suis beaucoup associée avec des associations. J'avais tout un projet, Zazimut, j'ai beaucoup investi dedans. Et du coup, on trouvait des associations locales, on les faisait monter sur scène. Parce qu'au début, ils ne montaient pas sur scène, mais du coup, il n'y avait pas d'impact assez en tout cas. Et donc je leur donnais 2 minutes pour parler et j'ai fait des projets avec des associations dont des, par exemple en Argentine avec une Vichas, c'est leur favela, ça s'appelle Vichas.
Et concrètement, ils travaillent dans quoi ?
Et ben alors par exemple on travaillait avec une association de médecins qui s'occupe des mamans toxicomanes, qui accouchent d'enfants toxicomanes et donc du coup bah ils les aident à s'en sortir et à les accompagner. Et donc nous on a pris un camion, on pouvait même pas rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il faut prendre un camion pour faire 300 mètres. Et après, il y a quelqu'un qui lève la main, donc on peut rentrer. Mais... Et du coup, on a été jouer là-bas. Et le lendemain, je dis, ah, le lendemain, je joue au Luna Park devant 10 000 personnes. Et je disais, mais ils peuvent venir. Non, Isa, ils peuvent pas venir. S'ils sortent, ils peuvent plus rentrer. Je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, mais en fait, c'est même inimaginable. C'est-à-dire, c'est un autre fonctionnement. Quoi. On peut même pas, nous, se projeter dedans. C'est une autre manière. Et à partir d'un moment, il y avait la lumière qui commençait à baisser. Il dit, faut partir tout de suite. Là, ça commence à se savoir. Mais c'était génial, il y avait même des gros durs. Il me dit, tu vois, là, les 3 personnes qui sont là-bas, qui écoutaient le spectacle, il me dit, c'est des gens, ils sont chauds, quoi.
Ah ouais.
Et tout le monde était calme. Enfin, tu sais, il y avait quelque chose, c'était magique, on vivait. Et moi, je chantais pour les gens qui parlent pas le français. Et à un moment, je me suis retrouvée à me prendre dans les bras d'une vieille qui était aveugle et qui fumait sa clope et qui me parlait en espagnol. Et moi, je lui parlais en français. Et on se comprenait, même si on se comprenait pas, et c'était assez magique.
C'est incroyable ce que vous vivez.
Ouais, il y avait puis avec mon équipe, parce qu'on était tous ensemble, donc il y a des gens avec qui j'ai vécu des choses assez extraordinaires. On a été manger sur la Plaza del Mayo avec des sans-abri, où il y avait un chef cuistot qui tous les ans fait à manger pour eux. Donc j'avais demandé à l'époque à mon contrebassiste et mon clavier qui fait aussi de l'accordéon. Donc on avait été jouer et on avait passé un temps avec eux, c'était assez exceptionnel. Donc quand on peut, c'est cool.
Ouais, ouais. C'est-à-dire que vous alliez votre musique et votre carrière internationale à vos engagements.
Ouais, et puis ça nourrit tout, quoi. Ouais. Ça nourrit tout, ça a du sens.
Et donc cette étiquette altermondialiste que vous avez, c'est pas qu'une étiquette.
Ouais, mais l'étiquette, mais ça veut dire quoi? C'est mal de d'aimer l'humain. Ah, c'est mal de prôner l'amour.
Vous parlez à une promo altermondialiste, alors.
Après, j'ai jamais dit que l'argent, j'en voulais pas. J'ai dit que l'argent, ça doit rester un moyen de faire des choses et que ça doit pas, surtout pas être une sécurité, parce que l'argent peut enfermer. Mmh.
Bistroscopie, Charline Vaninacker sur France Inter.
Alors, moi j'ai envie donc de mieux vous connaître, Zaz, et je me demandais, vous avez parlé de 2-3 influences jazz récemment là, il y avait des posters de chanteurs et de chanteuses dans votre chambre d'ado?
J'avais des posters d'animaux.
Ah ouais?
Ouais.
C'est vrai.
J'adore les animaux. Okay. Mais c'était plus facile pour moi de communiquer avec les animaux et la nature que l'humain.
Okay.
Donc c'était plus direct.
Ouais, ouais, ouais. Mais alors je devrais peut-être dire dans vos chambres d'ado, parce que vous avez vécu à Tours, vous avez vécu à Bordeaux.
Alors ma chambre d'ado, c'était écrit sur les murs. J'étais assez révoltée, donc j'étais rebelle.
Ouais. Donc, ah oui, vous avez fait des graffitis, des trucs comme ça.
Donc voilà, j'avais écrit, j'étais pas bien adolescente. Mm-hmm. J'écoutais du Alpha Blondie, vu que j'habitais à Bordeaux, j'écoutais du Noir Désir. J'écoutais plein de choses, mes copines en 6e écoutaient du Welcome to the Jungle, comment ça s'appelle, Guns N' Roses, du Metallica, des choses comme ça. Donc j'écoutais un peu la musique par procuration.
Donc dans la chambre, ça résonnait de pas mal de musique.
Ouais.
Vous avez eu une période en foyer aussi?
Oui, ça n'a pas duré longtemps.
Ça n'a pas duré longtemps?
Non, je suis une super juge pour enfants et du coup j'ai habité très vite avec ma sœur à Bordeaux.
Ah, okay.
Et après j'ai eu un appart à 17 ans.
Et cette juge pour enfants, elle a un peu changé votre vie? Elle vous a tendu une perche?
Je pense que c'était... Je ne l'ai jamais retrouvée, cette femme, et j'aurais voulu lui dire merci, parce qu'elle me voyait moi, et elle voyait que si elle me continuait, malgré les conneries que je faisais, elle ne m'a pas enfermée dans ces institutions qui m'auraient pas du tout, ça ne m'aurait pas du tout allé.
Vous avez essayé de la retrouver ou pas?
Non, j'ai pas.
Comment on peut faire? On peut essayer là maintenant de lancer un appel pour la retrouver?
Ah ouais, Madame Vigneault.
Madame Vigneault,
ouais.
Elle était du côté de Bordeaux?
Ouais, de Bordeaux, ouais.
Et elle était juge pour enfants?
Elle n'arrêtait pas de dire j'ai envie de dire. Et je me rappelle, elle disait toujours ça, j'ai envie de dire.
Bon, écoutez, si vous la connaissez, si vous avez des nouvelles, dites-nous et on
vous
communique.
Ça serait énorme. Ah, je pourrais, franchement, ça me ferait pleurer. Parce que cette dame, elle a compté. Elle a vraiment compté.
Ouais.
Elle voyait la détresse dans laquelle j'étais et je savais qu'elle me voyait. Ouais.
Mmh. À 5 ans, vous entrez au conservatoire de musique.
Oui, je fais de l'éveil musical à 3 ans, même avec Madame Catillon. Et elle a compté, mais de ouf. C'était vraiment quelqu'un qui me permettait de m'exprimer comme je voulais. Il y avait la musique « Il tape sur les bambous et ça lui fait... »
Philippe Laville.
Ouais. Et j'avais un espace pour m'amuser, pour bouger très fort, rire... Voilà, expérimenter des choses, et elle donnait ce cadre-là, et je m'en rappelle, t'imagines, j'avais 3 ans, 3 ans jusqu'à mes 5 ans, et je m'en rappelle très très bien de cette dame.
Ah oui, c'est marquant. Et après, au conservatoire, est-ce que c'est plus rigide comme enseignement?
En fait, j'aime pas... Mais pareil, j'avais fait de la danse classique, et je sortais, je pleurais, parce que j'ai l'impression que j'étais pas acceptée comme j'étais. Et je pouvais pas être moi-même. Et le conservatoire, c'est pareil, c'était très académique. Après, je pense que je regarde... J'avais décidé de faire du violon. J'étais très amoureuse du violon. J'avais vu à la télé qu'il y avait un orchestre, je sais plus dans quelle émission, et j'avais dit je veux faire ça. Et apparemment j'étais douée. Et puis pareil, mes parents se sont séparés, j'ai arrêté. J'ai complètement arrêté.
Ah oui.
Et après j'ai eu des notions, je faisais de la chorale, mais je m'en rappelle pas trop. C'est bizarre, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Mm-hmm. Mais je pense que ça m'a donné plein de notions. Mais c'est vrai que le côté académique, c'est compliqué pour moi.
Bon, c'est vrai que vous avez la bougeotte. Si vous voulez vous lever à un moment de la banquette...
Non mais ça va. En fait, je m'adapte très vite, donc je me connais bien. Mais c'est vrai que j'ai la bougeotte,
je
touche les trucs en permanence. Je fais du bruit, je démonte les trucs, les casques, les micros, ça va.
Comme vous dites, au moins c'est vivant. C'est vivant. Vous commencez... Alors j'ai lu chanteuse de bal. Est-ce que...
J'ai fait du bal, en fait, quand j'ai fait ma formation en SIAM.
Ouais.
Il y avait, tu sais, les petites annonces et tout ça. Et il y avait marqué « Cherche chanteuse pour orchestre qui était dans le sud ». Donc Izaradat, ça veut dire « étoile filante » en basque.
Ouais.
Et donc, ils cherchaient une chanteuse dans un orchestre, et ça tourne, les chanteurs, les danseurs, ils étaient 15. Et donc, j'ai passé l'audition. Et je suis rentrée dans un orchestre où je chantais le bal populaire, tu sais, la fête des pompiers, ou quand t'es dans le sud, il y a plein de bals comme ça, ou dans le nord aussi, mais nous, on était principalement dans le sud, à Tournemire, tu sais.
Donc devant plein de gens déjà, en fait.
Ah ouais, même on a fait le stade d'Anda, il y avait 10 000 personnes, on a fait les fêtes de Bayonne une fois, et donc chanter toutes les chansons populaires, quoi, toutes les chansons qui passaient à la radio au moment.
Ah ouais. Et ça a été par exemple votre premier cachet ?
Ah ouais. Ah oui, parce que sortie de formation, ma formation comptabilisait des heures.
Ouais.
Et donc j'ai fait 15 dates et j'ai eu mon intermittence. C'était complètement dingue, j'étais intermittente, quoi.
Ouais, ouais.
Du spectacle. Et après, la première année, j'ai adoré parce que j'étais payée à chanter, je trouvais ça incroyable. Et non seulement j'ai expérimenté un truc fou, mais en plus j'étais payée pour le faire, quoi. Et la deuxième année, je commençais à m'ennuyer. Parce que j'avais mangé tout ce que j'avais à manger, mais tout le monde me disait, mais tu peux pas partir, comment tu vas faire, tu t'imagines, t'as ton intermittence. J'ai dit oui, mais du coup je veux vient un peu toutes ces expériences là, c'est-à-dire que
ouais, votre tube par lequel vous connaissez.
Ouais, c'est ça, c'est que l'important c'est que je m'amuse et que j'apprenne.
Mm-hmm.
Et voilà, si je m'ennuie un moment, bah tu gagnes de l'argent, mais
vous passez à autre chose.
Bah, en fait,
ouais,
c'est chiant. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc j'ai quitté cet endroit, j'ai demandé à la vie, je dis je voudrais un groupe de compo. Et je voulais faire des compositions, quoi, originales. Et donc on m'appelle, on me dit, quelqu'un a dû entendre parler que voilà, et que je cherchais. Et on m'a dit, on cherche une chanteuse pour notre groupe qui s'appelle Don Diego. On fait des compos français-espagnols. Et je dis, je sais que c'est vous. Il me dit, bah, déjà on va se rencontrer. Je dis, ouais, mais je sais que c'est vous. Et je suis rentrée dans cette formation. On était 8 et on a fait plein de trucs. J'ai eu un quartet de jazz avec eux aussi qui s'appelle Isaac Quartet. Mon premier groupe, c'est un groupe de blues au Siam. Et après, j'ai trouvé un autre groupe de blues à côté. J'ai fait 10 000 trucs, en fait. J'ai fait plein de choses. Ouais.
Donc, Zaz a commencé par plein de groupes.
Ouais. J'ai même donné des cours à des jeunes dans une MJC. J'étais incapable de le faire, mais on m'a proposé. Je me dis, si on propose, au pire des cas...
Que des cours de chant ?
Je donnais des cours à des jeunes, ouais.
Wow.
Et j'avais 20 ans, tu sais.
Et après, vous arrivez à The Voice.
Ouais, après, j'étais pas très organisée. Ouais, après, The Voice, c'était encore un autre truc.
Bien sûr, j'imagine. Vous chantez à un moment Place du Tertre à Paris.
Oui.
Dans la rue.
Oui.
Et le chanteur Raphaël vous repère.
Ouais.
Vous vous rappelez de cette rencontre ? Vous pouvez nous la raconter ?
En fait, je venais de signer chez Playon, qui était une petite boîte qui n'était pas connue à l'époque. Mmh. Et donc, j'avais déjà Je veux, j'avais déjà tout ça. Et un des producteurs de la boîte connaissait très bien Raphaël, parce qu'ils étaient amis depuis qu'ils sont enfants.
Mmh.
Et, ou adolescents, je ne sais plus. En tout cas, ils se connaissent. Et en fait, il a dit, ah, mais t'habites pas loin. Et elle a l'habitude de... Parce qu'en fait, j'avais déjà signé, mais je continue d'aller jouer dans la rue, parce que bah, j'étais avec mes potos. Enfin, voilà, j'avais envie de jouer, moi.
Pendant l'enregistrement de votre premier album, vous continuez à chanter dans la rue, quand même.
J'ai besoin de chanter, quoi. Et puis, mon rapport au public, aux gens, et Raphaël, donc, vient me voir. Donc, je fais un petit concert, je me rappelle plus. C'était dans une petite cave. On pouvait rentrer 100 personnes. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais il vient, il a invité, et il vient me voir aussi à Montmartre, mais il vient me voir dans ce petit endroit, et il me dit, il a envie de me proposer des chansons. Donc un jour, je rentre dans sa voiture, il me fait faire le tour de Paris, et j'écoute plein de chansons qu'il a écrites, et je dis, bah, celle-ci oui, celle-ci non, celle-ci oui. Et après, on part en studio, on essaye, on cherche les tonalités, et...
Ah, voilà, c'est la technique Raphaël, c'est de vous embarquer en bagnole.
Alors, c'était sa technique du moment, parce qu'il n'a jamais la même technique. Et non, c'est là, par exemple, sur cet album, j'ai été chez lui.
Oui, parce qu'il y a trois titres sur votre nouvel album.
Il y en a plus,
même
bien. Il y en a une qui est sur une réédition, et il y en a une autre que j'aimerais aussi terminer, qui est géniale, qui est complètement atypique.
Je veux, tube de l'été, on revient à cette 2010. Époque, voilà, sur TF1, et là c'est parti. Et en réalité, c'est une chanson altermondialiste.
Ouais, sur TF1.
Ça, c'est très drôle.
Mais on est tous plein de paradoxes, hein. Je veux dire, un écolo, des fois, devrait prendre son avion ou son train pour faire quelque chose.
Bien sûr.
Ou sa voiture
dans le sens d'imaginer TF1 qui a fait une chanson.
Après, j'ai fait le choix de rentrer dans le système. C'était un choix, j'ai accepté. Je me suis dit, si on veut changer les choses... Pour moi, si tu vas contre quelque chose, tu ne fais que le renforcer. Donc,
Il faut changer la chose de l'intérieur.
Pour moi, oui. Oui.
Et c'est ce que vous faites.
J'essaie.
Parce que vous avez toujours voulu changer le monde.
Oui. Après, je me suis cramé les ailes pendant le confinement, parce que tout ce que j'avais engendré, tout ce que j'avais fait, j'ai fait énormément de choses. Hein. J'ai créé un festival en Ardèche, avec pas toute seule, évidemment, avec mes compagnons. Mais j'ai investi beaucoup, j'ai fait beaucoup, j'ai fait plus le succès, donc c'était multiplié par tout.
Oui, donc changer le monde, c'est pas qu'une idée, c'est vous agissez, quoi.
J'ai fait plein de choses, j'ai investi beaucoup, et sauf qu'à un moment, j'ai confondu le fait de vouloir changer le monde et le fait de... C'est-à-dire que je croyais être un super-héros, je me suis cramée, quoi. Et j'étais fatiguée, et en fait, je me suis dit, mais en fait... Tu peux pas porter le monde. Je voulais vraiment porter tout. Et en fait, tu peux pas, et ça ne marche pas. Et en fait, c'est pas une bonne technique, parce que tu t'épuises, Et en plus, ça marche pas. Et t'auras jamais de reconnaissance en plus. Ça, jamais personne reconnaîtra. Donc, et en fait, je m'étais trompée de chemin. Et donc pendant le confinement, j'ai changé plein de choses et je voulais que Zaz meure. Parce que j'avais besoin qu'elle meure, parce que ce truc de super-héros que j'avais mis, que je m'étais mis depuis petite en disant je savais que j'allais être connue, que j'allais faire des choses en retrouvant d'autres et qu'on allait changer le monde. Et... Non, en fait, je vais rien changer du tout, je vais pas changer le monde, je peux me changer moi-même. Et parce que je vais rayonner et que je vais vibrer quelque chose, par résonance, ça va changer les choses. Mais c'est comme ça qu'il faut le prendre, parce que sinon, je me crame, je m'épuise et finalement, il n'y a jamais d'aboutissement en fait, tu vois. C'est les gens qui choisissent de faire. On peut pas imposer quelque chose. On peut pas. J'aurais beau expliquer quelque chose à quelqu'un, s'il veut pas comprendre, et si c'est pas le moment pour lui de comprendre, bah en fait, je vais m'épuiser pour rien. Donc c'est beaucoup moins fatigant. C'est beaucoup plus. Et du coup, prendre soin de moi. Et c'est ce que j'étais faire. J'étais prendre soin de moi, aller regarder à l'intérieur les failles que j'avais encore. Et voilà, c'est là où j'ai arrêté vraiment. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de fumer. Mes 3 paquets de clopes par jour. J'ai arrêté le café, ce qui est hyper dur, je sais pas qui est drogue ou le café.
Mais c'est plus dur que la drogue et la clope. Ouais.
Franchement, le café, c'est très très dur. J'avais l'impression de plus avoir de cerveau. Bon, après, j'ai tout arrêté d'un jour. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain.
Ah, oui.
Donc je sais pas si c'était, c'était le mix de tout. Quoi, ouais, tu vois.
Vous êtes plus radical que modéré.
Bah, y a que comme ça que j'y arrive. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire un peu. J'ai essayé de boire un petit peu, j'ai essayé de fumer un peu. J'ai essayé de boire un peu de café. En fait, je les animaux, je veux plus en manger. Je les aime trop, les animaux. Donc, pareil, j'étais devenue complètement végane. J'étais un terroriste avec tout le monde. Et en fait, mais en même temps, ça m'a enseigné plein de choses. Je me rends compte que d'être dur avec l'autre ne fait que le renforcer. Tu vois, tu peux pas accuser l'autre. Si tu accuses, jamais il pourra reconnaître ou jamais il n'y aura pas d'avancée. Ouais. Parce qu'en fait, tu le renvoies. Lui, il se sent attaqué, donc il va attaquer. Donc voilà, oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, d'être plus nuancé, plus modéré, d'essayer.
Vous avez eu cette prise de conscience avec le Covid où tout s'est arrêté, ouais. Et où vous êtes épuisé à ce moment-là, et ça correspond peut-être un peu à la crise de la quarantaine aussi.
Je sais pas, moi je suis en crise permanente, donc tu vois, je me remets en question toutes les deux secondes, mais j'avais besoin d'avoir une action, c'est-à-dire que j'avais déjà arrêté plein de fois. Et en fait, à chaque fois que je reprends, c'était pire. Donc je me dis, bon, bah, c'est bon, quoi, tu vois. Et surtout, je fais ça depuis que j'ai 13-14 ans. Donc j'avais besoin de savoir qui je suis sans ça. Et pas en juste arrêter un an, tu vois. J'avais déjà arrêté un an et demi. Mais j'avais besoin de me construire là-dedans et de savoir qui je suis et de trouver mes propres ressources intérieures pour plus être victime, tu vois. J'avais besoin d'être responsable de moi, je voulais plus être victime.
Eh bien, on va écouter la nouvelle ZAZ dans un instant, mais je voudrais d'abord vous demander, puisqu'on parlait au départ de votre engagement, de l'altermondialisme, etc., je vous ai entendu dire, c'est un choix politique d'être dans la joie.
Exactement. Bah, on m'a souvent reproché le fait d'être dans un monde youpi yo-yo. Youpi yo-yo, ça veut rien
je
dire.
Je comprends,
ça,
mais c'est une onomatopée qu'on comprend, bien sûr.
Youplalala.
Youplala, bisounours, je sais pas quoi. Voilà. Youpla boum.
Mais je suis quelqu'un de. De toute façon, il n'y a pas le choix, tu vois ce que je veux dire. Ça ne va pas me servir d'être. Si je veux aider le monde, j'ai intérêt à aller bien. Si je ne vais pas bien, je vais aider personne. Et je vais rajouter à la merde, tu vois. Je vais rajouter à. Alors je dis pas que les colères sont pas saines, hein. Il y a des colères qui sont saines, qui permettent de se bouger, c'est une énergie, mais il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit, tu vois, qu'elle soit encadrée de quelque chose et que ça serve ce pourquoi on a envie de faire avancer les choses. Et moi, rajouter à la, ça va pas aider. Et c'est un vrai taf. Parce que moi, le matin, il y a des matins où je me lève, je pleure, tu vois. C'est quand t'es empathique avec tout ce qui se passe dans le monde. En plus, maintenant, il y a les réseaux. Donc, avant, quand t'étais plus jeune, tu savais que le monde allait pas bien. Mais là, on est spectateur d'horreur, quoi. C'est terrible. Et du coup, en fait, si je veux aider le monde et si je veux faire des choses. Et moi, ça a toujours été mon choix, c'est d'émaner ma lumière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, tu vois, à travers ma musique, à travers mes chansons, d'exprimer mes valeurs, de raconter aussi mon parcours. Parce que si j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que j'ai cette volonté. Et pour plein d'autres, c'est resté. Donc, quand on me juge là-dessus, je me dis, mais ils savent pas, les mecs ou les meufs, elles savent pas, quoi, tu vois, ils savent pas, ils me jugent. Mais s'ils savaient par quoi et comment j'ai réussi à m'en sortir. Il serait impressionné même et il me jugerait pas. Mais je pense que les gens jugent parce que ça leur renvoie quelque chose. C'est-à-dire que les gens te voient à travers leur filtre et leur prisme. Donc tu viens réveiller chez eux quelque chose qui les insupporte et qui vient résonner. Donc c'est pas moi en
c'est
fait.
C'est eux-mêmes qui jugent.
Mais en fait, c'est ils ont une représentation de moi. Je deviens quelque chose qu'ils n'aiment pas ou qu'ils supportent pas ou je sais pas. Je leur renvoie quelque chose, mais c'est pas moi.
Ouais.
C'est pas moi.
Vous, c'est la, on peut dire la nouvelle Zaz, avec cet album Sain et Sauf. Ce que vous venez de dire, justement, Zaz,
Quand on va entendre le titre que j'ai choisi de votre album, ce titre c'est On peut comme ça.
Ouais, incroyable.
On va, ça colle tout à fait avec ce que vous venez de dire. Donc tendez l'oreille.
On peut comme ça, ça te fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. Construire, à reconstruire, on peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans la. Ça c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. On peut comme ça parce qu'il faut bien prendre la route un beau matin, après mille ans de trahison, embrasser sa confusion. On peut comme ça parce qu'il faut bien vivre sa vie, se prendre en main, se prendre pour un marin, vérifier si l'eau s'amouille, danser avec les grenouilles.
Bistroscopie sur France Inter.
Extrait du nouvel album de Zaz, qui est dans ce bistrot avec moi et avec vous sur France Inter.
J'adore ce format.
C'est cool hein, ce bistrot quand même. Et on est samedi soir, et on est à la cool avec ce très 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 joli titre, très jazz, avec ce texte. Je me suis dit, c'est la facette de vous, c'est celle que vous venez d'énoncer avant qu'on écoute le titre. Devoir tout recommencer du jour au lendemain, vous avez connu ça souvent?
Oui, je crois que j'ai une capacité à mourir et à renaître. Je pense que je me suis construite sur des schémas qui étaient bancals. Et des fois, on apprend des systèmes de pensée, des systèmes des façons d'être et tout ça, malgré nous, en fait. Et de la société, et de nos familles. Après, on hérite aussi de plein de belles choses. Mais il y a des choses, moi, qui ne me conviennent pas. et qui ont été voilà, des racines qui sont bancales. Donc, et après, tu répètes, tu vois ce que je veux dire ? Parce que bah, on répète ce qu'on a connu, et puis même dans le transgénérationnel, il y a des choses qu'on répète parce que les choses n'ont pas été dites et pas été reconnues, et on porte en nous la mémoire de, bah, de nos ancêtres et de la société aussi, c'est-à-dire qu'on porte en nous les choses dans la société, il y a aussi une mémoire collective et tout ça. Et
moi, dont on hérite malgré nous.
Malgré nous, ouais. Et moi, j'ai toujours mis en conscience les choses, enfin, j'ai toujours vu les choses inconscientes, pour moi, elles sont très conscientes. Et d'ailleurs, ça a souvent été une problématique parce que souvent, quand je perçois des gens, je vais dire un truc et en fait, c'est un secret. Tu vois ce que je veux dire ?
Merde. Mais comment vous y arrivez ? Parce que là, vous avez énormément de lucidité.
Oui.
Est-ce que vous êtes passé, par exemple, avec ce que vous avez traversé dans la vie, par la psychanalyse ?
Ah oui, j'ai tout fait. J'ai fait plein de choses. La psychanalyse. Après, il faut trouver la bonne personne. C'est toujours pareil. C'est qu'il y en a plein des psychanalystes. Et ce qui va conditionner, moi, ma réussite, c'est la personne. Tu vois, parce que bah une fois par exemple que j'ai vu la faille de la personne, je peux plus travailler avec elle, c'est pas possible. Bah ouais.
Ah ouais.
Et donc j'ai été voir beaucoup de gens et plein de gens qui travaillent dans le transgénérationnel, du chamanisme, des courants de pensée, je sais pas, les cinq blessures, ça peut être n'importe quoi, de l'énergétique.
Et donc d'une certaine manière, ce nouvel album, c'est tout le résultat de tout ce travail que vous avez fait depuis.
Cet album, c'est moi en fait. Ouais. C'est moi, c'est les choses que j'ai traversées. Il y a eu le deuil de mon père. Enfin, il y a eu le deuil de mon père. J'ai eu la mort de mon père il y a 2 ans.
Ouais.
Tout ce que j'ai traversé en fait.
Ouais. Vous livrez d'ailleurs cet album. Il s'ouvre avec une chanson qui s'intitule « Je pardonne ». Et comme c'est un album qui va sans doute élargir votre public, j'interprète ce message un peu comme si vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez jugé.
Oui.
C'est pas grave, n'ayez pas honte, venez m'écouter.
Ah oui, complètement.
C'est ça ?
Non, je suis pas... Au contraire, tu vois, même moi, par exemple, quand je dis une connerie ou que j'ai fait une erreur ou que je me suis énervée ou je sais pas, je me suis comportée un peu pas bien, tout de suite, après, je vais m'excuser, je vais demander pardon, voilà. Et j'espère que, tu vois, par exemple, si je m'en suis pas rendu compte, que la personne va me dire, là, tu vois, t'as dépassé les limites ou machin. J'espère que les personnes, tu vois, qu'on se fasse confiance et qu'on se dise les choses et des fois, on se rend pas compte, tu vois. Le pardon, en fait, c'est aussi... Je pense que ces gens-là viennent réveiller quelque chose en moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que j'avais des failles. Et c'est ces failles-là que j'ai été voir. Et donc, j'ai été affronter un peu mes démons et les choses qui étaient violentes et qui faisaient mal et qui faisaient souffrir. Mais ça vient de plus loin. Ça vient de l'enfance. Donc, j'ai pas besoin qu'on me reconnaisse. Tu vois, j'ai jamais voulu être connue pour être reconnue parce que je m'en foutais de ça. Moi, j'ai besoin de me reconnaître moi, tu vois ? En fait, avant, je voulais pas pardonner. Je voulais que l'autre reconnaisse parce que j'ai eu plein d'événements dans ma vie qui ont été compliqués. Et en fait, j'avais l'impression que ma souffrance, ça va devenir quoi, tu vois ? Mais à un moment, j'en ai marre de souffrir, tu vois ? J'en ai marre de la nourrir, ma colère, ma violence. J'ai envie d'être douce avec moi-même. Et je pense que tout le travail que j'ai fait dans ma vie m'a amené aussi à me libérer, à m'accompagner, à être plus douce avec moi-même, et pas que quand je fais des choses géniales, tu vois ? Quand je fais des trucs où c'est pas beau, où c'est pas bien, où je me rends compte que j'ai des émotions qui sont hyper désagréables ou violentes, en fait, m'accueillir là-dedans, tu vois. Apprendre à se valoriser. Je me suis mis aussi en couple avec quelqu'un. Donc, cette personne a beaucoup de douceur en lui, mais j'aurais pas pu la rencontrer si j'avais pas fait ce travail avant. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait aussi d'arrêter avec les relations toxiques, parce que, en fait, quand tu te respectes pas, tu rencontres des gens qui te respectent pas. Et quand tu commences à te respecter, en fait, tu mets des limites aux gens. Tu leur dis là, stop, là, non. Ouais. Et surtout, quand t'es quelqu'un de gentil, tu confonds souvent le fait d'être gentil avec le fait de pas mettre de limites. Parce que si tu mets des limites et que tu dis non, l'autre, il va pas être content. Donc tu dis, oh, s'il est pas content, il va dire que... Enfin, tu vois, je vais pas passer pour quelqu'un de gentil. Et en fait, je vais être quelqu'un de méchant. Mais en fait, non. Parce que déjà, quoi que tu fasses, ça marchera jamais. Et la personne, ça sera jamais assez.
Donc cette chanson, Je pardonne, elle vous ouvre tout un nouvel espace beaucoup plus serein. Mais après, vous dire que vous en êtes tellement pris dans la tronche. Vous évoquez souvent les réseaux sociaux dans ces cas-là. Moi, étant humoriste et ayant fréquenté beaucoup d'humoristes, vous l'évoquez peu, ça, mais il y a aussi les humoristes qui faisaient de vous un running gag.
Ouais, mais je pense que c'était la blague facile. Tu sais, il y a quelque chose qui marche et tu le remets. C'est-à-dire que tout le monde a rigolé à ça, donc tu te sers de ce truc-là pour faire rigoler les gens. Sauf que l'humour...
C'est comme un mème sur les réseaux. Vous devenez un mème, en fait.
C'est ça.
Ouais,
c'est ça. Et après, c'est ça que c'est toujours pareil. Il y a des blagues qui sont rigolotes. Et selon comment c'est dit de la personne, qui l'a dit et l'énergie dans laquelle tu l'as dit, ce que dégage la personne, c'est plus ou moins drôle, tu vois.
Donc vous faites la part des choses entre l'humoriste qui va faire une blague sur vous et vous sentez qu'il y a de la tendresse,
oui,
et que
beaucoup,
voilà.
Ouais. Oui, il y a des gens méprisants, tu vois.
Et ça, vous le sentez dans le ton.
Oui, mais c'est, généralement ces gens méprisants, c'est des gens qui veulent briller, c'est qu'ils ont un ego, et quand t'as un ego qui est surdimensionné, c'est parce que t'as envie qu'on te valorise, qu'on te voit, et parce que t'as une fêlure.
J'ai presque envie de m'allonger, que vous m'analysiez, parce que vous avez, c'est fou.
C'est quelqu'un qui souffre généralement, tu vois, quelqu'un qui veut. Mais tu le sens dans l'énergie, tu vois. C'est des gens qui piquent comme ça, c'est qu'ils vont pas bien en fait.
Ah, ouais. Comment vous travaillez votre voix, Zaz ? J'ai l'impression que votre voix, elle est à la fois le produit aussi de certains excès.
Ouais.
En plus de ce don du ciel que vous avez, en fait.
Bah, je pense que c'est moi, c'est-à-dire que c'est ma voix, elle me parle de par exemple, pendant le confinement, j'avais perdu ma voix, je ne l'avais pas perdue physiquement, mais je n'arrivais plus à chanter parce que j'avais une perte d'identité, je ne savais plus, tu vois, j'étais en train de déstructurer énormément de choses. Du coup, je changeais des croyances, t'imagines, changer des croyances, c'était perdu. Et en fait, je voulais me raccrocher à un truc, mais je pouvais même pas. Je pouvais même pas. D'ailleurs, dans Noé Préchoff m'avait filé cette chanson sur l'album précédent qui s'appelle Le Chant des Grives. Et il y a marqué s'évader dans un. Que tu peux même pas t'évader dans un verre de vin. Je pouvais même pas. C'est-à-dire que j'avais décidé d'arrêter toutes les. Toutes les béquilles que j'avais pour les trouver moi-même. Mais je pouvais m'accrocher à rien. C'est-à-dire
et donc, plus de voix.
Et donc, je ne savais plus chanter. J'arrivais plus. Donc, j'ai repris des cours de chant. J'ai même pris des cours de danse. J'ai pris des. Tu vois, bon, après.
Vous avez tout recommencé à zéro.
Ouais,
presque.
J'avais besoin de me stimuler, de retrouver des appuis sur des choses, quoi. Tu vois.
Alors, on comprend que vous avez changé. Est-ce que vous serez autrement sur scène alors ? Parce qu'il y a une grande, grande tournée qui s'annonce avec l'Olympia est complet. Il y aura les Zéniths en avril et puis une tournée dans toute la France et à l'international. J'ai vu des dates en Allemagne, en Espagne. Ouais. Je vous laisse aller voir parce que la tournée de Zaz, c'est un truc de fou. Vous serez comment sur scène alors si vous avez changé ?
Je serai heureuse. Non, je serai toujours heureuse. J'ai changé et en même temps, je suis restée la même. Mm. Et je m'amuse plus. Je sais mieux prendre l'amour du public. Ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à recevoir et donner, c'est facile pour moi. Tu vois, il y a un côté. Voilà, mais j'ai appris à équilibrer les deux, c'est-à-dire d'accueillir, de recevoir, et ça me bouleverse beaucoup parce qu'il y a plein de fois où je suis sur scène où avant je prenais pas du tout le public, enfin je prenais pas les applaudissements, je prenais pas l'amour, vite je me barrais, j'étais presque gênée, tu vois. Enfin, d'ailleurs, je suis des fois.
Ça vous intimide encore le public ?
En fait, des fois l'amour est tellement fort que j'ai du mal à accueillir, ouais. Donc ça me fait comme un trop plein, c'est trop. Par exemple, avant, quand je recevais des prix et tout, j'étais hyper gênée. Tu vois, je savais pas quoi en faire. J'étais gênée, ouais.
Et donc, tournée en France et à l'international, on parlait de toutes vos actions, d'altermondialisme, de votre engagement. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des pays dans lesquels vous hésitez à aller chanter ?
Ah bah là, clairement, la Russie, j'y vais pas, hein. Ukraine, j'y vais pas non plus.
Ouais. Au départ, vous avez chanté en Russie il y a longtemps, au début de votre carrière.
Oui, j'ai énormément fait de concerts en Russie. J'ai un public que j'adore en Russie, en Ukraine aussi. Et en plus, c'est son cousin, quoi, tu vois. Ouais. Là, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique tout ce qui se passe, quoi. Mais tout ce qui se passe dans le monde, que ça soit en Palestine, Israël, le Congo, il se passe des horreurs. Il y a des gens qui sont massacrés, des destructions massives avec les viols. Enfin, moi, je vais pas raconter tous les trucs, mais.
Donc il y a un public, il y a toute une partie de votre public qui est privé de vous et vous êtes privé d'eux.
Exactement. Et ça m'attriste beaucoup parce que je chante pour les gens.
Mm. Mm. Votre musique leur parviendra d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais il y a des gens qui m'envoient, il y a plein de Russes ou d'Ukrainiens qui me disent on écoute ta musique, elle nous fait du bien, on t'écoute.
Waouh.
Ouais. Wow. Ouais,
ouais. Merci Zaz d'avoir passé ce moment avec nous.
Mais merci beaucoup.
J'étais très heureuse et je voulais aussi vous dire qu'il était temps aussi qu'on vous dise qu'on vous aime.
Oh, j'accueille.
Prenez, soyez pas gênés.
Moi,
prenez.
Je vous aime aussi beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, on rappelle que l'album de Zaz est disponible déjà, il s'appelle Sain et Sauf, et qu'elle est en tournée planétaire.
Venez
et puis tous les Zéniths de France et d'autres salles, bien sûr, je vous laisse aller voir. Et allez la voir. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur, Andreas Jaffré à la technique, Thomas Allard au mixage, et merci à Karine Aubertuig au service documentation de Radio France. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.